prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Flavie Coquel. Je suis chercheuse en biologie à l'Institut de génétique humaine du CNRS et de l'Université de Montpellier, lauréate d'un prix Grandes avancées françaises en biologie, décerné par l'Académie des sciences et la Fondation Mergé-Bourdeix. Et je vais vous parler d'un nouveau lien entre la réplication de l'ADN et l'inflammation. Selon la Ligue contre le cancer en France, un homme sur deux et une femme sur trois se verra diagnostiquer un cancer avant 85 ans. En thérapie contre le cancer, on distingue deux types de tumeurs. Des tumeurs qui sont dites froides, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles pour le système immunitaire. Et des tumeurs dites chaudes, qui sont reconnues et combattues par le système immunitaire. Ces tumeurs produisent de l'inflammation, c'est-à-dire des molécules qui vont activer le système immunitaire. L'un des grands enjeux en thérapie contre le cancer actuellement est de transformer ces tumeurs froides en tumeurs chaudes pour éliminer les cellules cancéreuses plus efficacement et limiter les effets secondaires de la chimiothérapie. On sait que certaines chimiothérapies activent le système immunitaire, mais les mécanismes mis en jeu sont mal connus. Ces chimiothérapies qui induisent la production d'inflammation ont une caractéristique commune. Elles entraînent la libération de petits morceaux d'ADN génomique hors du noyau de la cellule vers le cytosol. La présence de fragments d'ADN dans le cytosol est une situation anormale pour la cellule. C'est comme si elle était infectée par un virus. Ces fragments d'ADN dans le cytosol sont donc reconnus par des protéines de l'immunité innée, ce qui entraîne la production d'inflammation. Le but majeur de mon projet de thèse était de comprendre comment ces fragments d'ADN sont libérés du noyau. Et pour répondre à cette question, on va zoomer à l'intérieur du noyau de la cellule. Les chimiothérapies qui induisent la libération de fragments d'ADN dans le cytosol sont des molécules génotoxiques qui bloquent les fourches de réplication de l'ADN. La réplication, c'est le processus qui permet à toute cellule de dupliquer son génome pour pouvoir se diviser et donner naissance à deux cellules filles ayant chacun le même patrimoine génétique. Chaque cellule de notre corps possède environ 2 mètres d'ADN qui est répliqué par des milliers de toutes petites structures qu'on appelle les fourches de réplication. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est comme si 20 000 poids lourds parcouraient une route longue de 300 000 km à 30 km/h, et ce, dans les deux sens de circulation. Ces camions, c'est-à-dire les fourches de réplication, rencontrent souvent des obstacles qui stoppent leur progression. C'est ce qu'on appelle le stress réplicatif. Au laboratoire, on induit du stress réplicatif de manière artificielle en utilisant des molécules telles que celles qui sont utilisées en chimiothérapie. Une fourche de réplication bloquée, c'est une situation dangereuse pour la cellule car une fourche arrêtée peut s'effondrer et entraîner la cassure de l'ADN si elle n'est pas prise en charge correctement. Pour éviter cette situation, les fourches bloquées sont signalées, stabilisées et si possible redémarrées. Donc la cellule met en place un tas de réactions très complexes pour stabiliser et redémarrer les fourches qui sont bloquées. Par exemple, des exonucléases dégradent l'ADN nouvellement synthétisé pour permettre le redémarrage des fourches. Un autre mécanisme utilisé par la cellule met en jeu des hélicases qui déplacent cet ADN qui est ensuite clivé par des endonucléases. Ces mécanismes sont complexes et nous sommes encore loin de les comprendre complètement. Il est pourtant essentiel de comprendre ces processus. En effet, les cellules cancéreuses se divisent de manière incontrôlée. Elles doivent donc dupliquer leur génome beaucoup plus souvent que les cellules normales. Elles ont donc un stress réplicatif endogène très important comparé à des cellules normales. Et on pense que le stress réplicatif est l'un des talons d'Achille du cancer et qu'il pourrait être utilisé pour éliminer de manière spécifique les cellules cancéreuses. Pendant ma thèse, je me suis intéressée au rôle d'une protéine qui s'appelle SAMHD1 dans ce processus. SAMHD1 est un facteur de restriction du VIH, c'est-à-dire qu'il empêche le VIH d'infecter les cellules. Et on sait aussi depuis quelques années que les cellules qui n'ont pas SAMHD1 produisent de l'inflammation en très grande quantité. Par ailleurs, une étude réalisée par Tania Louis du laboratoire de Moncef Benkirane, notre voisin à l'Institut de génétique humaine, a montré que SAMHD1 est dérégulé dans certains cancers. Tania a montré que les cellules qui n'expriment pas SAMHD1 meurent plus que les cellules normales si elles sont traitées avec des agents génotoxiques qui bloquent les fourches de réplication. Cette étude nous a suggéré un rôle possible pour SAMHD1 dans la réponse au stress réplicatif. SAMHD1 pourrait donc être le lien manquant entre l'inflammation et la réplication de l'ADN. Nous avons donc étudié la réplication dans plusieurs types de cellules où nous avons déplété SAMHD1, qui ont été comparées avec des cellules normales. On utilise pour cela la technique qui s'appelle la technique des fibres d'ADN. Cette technique nous permet de mesurer la progression des fourches de réplication au niveau de molécules uniques. Pour cela, les cellules sont incubées avec un analogue de la thymidine, qui est utilisé pour synthétiser l'ADN, puis avec un deuxième analogue de la thymidine. Les cellules qui sont en train de répliquer leur ADN vont donc incorporer ces analogues dans leur ADN génomique. Ensuite, on récupère les cellules, on les lyse, c'est-à-dire que on détruit leur membrane cellulaire et on dépose ces cellules qui sont explosées en fait tout en haut d'une lame de verre. On penche légèrement cette lame pour que l'ADN s'étire sur le verre. Et ensuite, on utilise des anticorps qui sont dirigés contre les analogues de la thymidine et qui sont colorés soit en rouge, soit en vert. Donc on peut directement mesurer la progression des fourches de réplication en visualisant le rouge et le vert au microscope. On a un peu modifié cette technique pour pouvoir quantifier le redémarrage des fourches bloquées. Et on a observé que le redémarrage des fourches bloquées est en effet perturbé dans les cellules qui n'ont pas SAMHD1. Quel est le rôle exact de SAMHD1 dans ce processus? En collaboration avec Lumir Cresci de l'Université de Brno et Vincenzo Costanzo de l'Université de Milan, nous avons montré que SAMHD1 stimule l'activité nucléase d'une enzyme qui s'appelle MRE11. Cette enzyme est essentielle pour permettre le redémarrage des fourches de réplication. Nous avons observé que lorsque SAMHD1 est absent, d'une part, MRE11 ou MRE11 n'est pas recruté correctement au niveau des fourches bloquées, et d'autre part, son activité enzymatique est diminuée. Par conséquent, l'ADN nouvellement synthétisé n'est plus directement dégradé. Et à la place, une solution alternative est favorisée. Au niveau des fourches bloquées, une hélicase, qui s'appelle RECU1, déplace l'ADN, qui est ensuite clivé par des endonucléases. Ce mécanisme génère de petits fragments d'ADN qui sont libérés dans le cytosol de la cellule. On est allé un peu plus loin dans le mécanisme et on a montré que cet ADN cytosolique est détecté par des protéines de l'immunité innée, c'est-à-dire cIGAS, qui déclenchent la production d'inflammation. Ces résultats mettent en évidence et permettent de comprendre un peu mieux le lien qui existe entre le stress réplicatif et l'inflammation. On peut maintenant imaginer pourquoi certains agents qui sont utilisés en chimiothérapie transforment des tumeurs froides, en tumeurs chaudes. Cette étude pourrait permettre de développer de nouvelles stratégies antitumorales moins toxiques pour les patients en utilisant différemment la chimiothérapie ou en combinant la chimiothérapie avec de l'immunothérapie. Ces résultats ont également des conséquences pour une autre maladie qui touche beaucoup moins de personnes que le cancer et qui s'appelle le syndrome d'Écardi-Gouttière. Des mutations héréditaires de SAMHD1 sont en effet à l'origine de cette maladie. Les nourrissons qui naissent avec ces mutations sont atteints de microcéphalie, c'est-à-dire qu'ils ont une tête plus petite que la normale, et ils ont du retard dans leur développement psychomoteur. Ils souffrent d'inflammation chronique qui est à l'origine de la microcéphalie et de ce retard psychomoteur. C'est comme si ces bébés avaient été infectés in utero par un virus comme Zika par exemple. Avant notre étude, on ne savait pas du tout pourquoi les mutations de SAMHD1 entraînent la production d'inflammation. Et grâce à nos résultats, on comprend un peu mieux cette maladie et on espère que cela permettra le développement de nouvelles thérapies dans le futur. Et pour finir, je voulais profiter de cette opportunité pour souligner l'importance de la collaboration en recherche scientifique. Notre étude a impliqué 6 équipes différentes en France, en République tchèque, en Italie, en Suède et en Angleterre. Sans l'expertise de toutes ces personnes, nous n'aurions pas pu mener à bien ce projet. J'aimerais remercier Maria Joao et Hervé Techer qui m'ont aidé à découvrir le rôle de SAMHD1 dans la réplication. Et enfin, je voudrais remercier Yali et Philippe qui ont donné vie à ce projet et m'ont encadré pendant toute la thèse. Et pour finir, je voulais remercier toutes les associations et les fondations qui soutiennent la recherche et qui récompensent toutes les personnes qui font le travail sur le terrain, dans les laboratoires, parce que sans eux, ça avancerait beaucoup moins vite. Merci beaucoup.